Mais bien sûr, mais bien évidemment. Hop là, Erev Tov, Lekulam, le Shiur et Leilou Nishmat, Lazar ben Yaakov.
Yaakov
ben Lazar. Tu vois, c'était presque. C'était presque. Yaakov ben Lazar. Donc, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et je tiens à rassurer tout le monde. Si vous avez pensé dans les deux premiers cours que c'était un petit peu technique et qu'il y avait, on est rentré un petit peu dans la métaphysique, bah oui, mais c'est normal, c'est le début. Ne vous inquiétez pas. Dans un, c'est-à-dire après ce cours-là ou le cours d'après, ça redeviendra plus normal. Mais on n'a pas le choix que d'éclaircir les bases des bases. Tant qu'on est dans le Gan Eden, c'est compliqué. Dès qu'on est expulsé du Gan Eden, ça va mieux. C'est-à-dire, c'est contradictoire de dire ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ça veut mieux pour la compréhension. Disons que quand on sort du Gan Eden, on retrouvera les personnages dans un monde qui est le nôtre. Donc on a un peu plus de facilité à comprendre. C'est-à-dire, mais là on parle des bases. Ça me permet d'ailleurs de dire que, en fait, ce que fait ici Akadosh Baruch Hu, quand il nous parle de cette réalité qui n'est pas une réalité physique, qui est la réalité du Gan Eden, eh bien, le fera beaucoup plus tard Platon. Lorsque le philosophe Platon dira qu'il y a le monde des idées qui est un reflet, enfin non, notre monde est un reflet du monde des idées. Et donc là, on est en train de nous présenter un monde qui n'est pas concret, mais qui est l'idéal. Tout ce qu'on dit, il ne faut pas oublier une chose qu'on n'a pas dit, mais je vais la redire maintenant. Tout ce qu'on apprend là maintenant ne veut pas dire qu'en parallèle, Dieu n'a pas créé un monde physique. Dieu a créé le monde physique, il a créé l'univers. J'ai simplement dit qu'on n'avait pas expliqué comment dans la Torah et que les scientifiques nous expliquent. Mais tout ce qu'on lit en parallèle, pas en parallèle au même moment, mais il y a un véritable monde qui se crée, la planète, les dinosaures, tout ce que tu veux, pour arriver à notre réalité. D'accord ? Best-seller. Donc on était dans le livre de Bereshit au chapitre 1, on est arrivé au verset Yud Dalet, au verset 14, on avait fait les trois premiers jours de la création. Okay, on a expliqué la dimension de Yehi, Vayehi, on a expliqué également le plan de chaque jour de la création, et on a fait les trois premiers. Premier jour, lumière, obscurité. Deuxième jour, séparation dans l'unité avec le ciel et l'eau. Enfin, la mer. Le rakia, en fait, la séparation entre les réalités. Troisième jour, on avait parlé donc de la faune, ok, l'herbe, les arbres, et ainsi de suite. Rebetzen, elle est arrivée, on peut commencer.
Ah, Rebetzen, on se lève. Vas-y. On se lève pour la Rebetzen.
On se lève pour la. Tu croyais quoi? Que tu allais faire une entrée inattendue, discrète? C'est pas possible.
Même si tu viens en retard, c'est pas discret.
Et voilà.
J'ai mal calculé, je suis là.
C'est pas grave, on va pas nous faire des réchites de pourquoi tu es en retard.
Elle pourrait. Tard.
Tu as dit la faune, mais c'est la faune et la flore.
Ah oui, j'ai dit la faune. Ouais, non, j'ai dit la. Ouais. Bah, c'est complètement faux.
Ouais,
mais bien sûr, la flore, oui, bien sûr. C'est beau. Non, mais j'ai, ouais, c'est ouais, très bien. J'ai dit n'importe quoi. C'était pour voir si tu suivais.
Voilà.
Exactement.
Je suis.
Donc oui, évidemment, c'est la flore, c'est pas la faune du tout. La faune, ça va arriver le cinquième jour. Ok, donc on est à jour. On peut y aller. Quatrième jour. Vayomer Elohim, Yehi, Meorot, Birkia, Hashamayim. Meorot, ce sont, alors en français on traduit des luminaires, c'est-à-dire ce qui produit de la lumière. Il ne s'agit pas d'un cours d'astronomie. Parce que quand on parle de Meorot, on entend le soleil et la lune. Et vous allez me dire, oui, mais astronomiquement parlant, la lune, elle ne produit pas de lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Nachon, on s'en fiche. Parce que là, on n'est pas dans un cours d'astronomie. Et l'enseignement, il est par rapport à mon point de vue. Eh bien, par rapport à mon point de vue, le soleil me donne de la lumière et la lune me donne de la lumière. C'est-à-dire, donc, on me dit, Vayi, Yehi, Meorot, Birkia, Hashamayim. Le'avdil ben Ayom, ou ben Alayla. Ve'ayu le'otot, ou le'moadim, ou le'yamim, ou le'shanim. Cette capacité de produire de la lumière, c'est ça qui va me permettre de voir. J'enfonce une porte ouverte. Nahon, mais c'est ce qui me permet aussi de faire la différence entre le jour et la nuit. C'est ce qui me permet d'avoir un cycle. Si je n'ai pas de soleil, astronomiquement parlant, la Terre ne tourne pas autour, il n'y a pas la notion de cycle et donc de chag, de renouvellement. Chag en hébreu, nous on appelle ça une fête, mais en fait ça vient du mot chuga, qui veut dire un cercle. Ok ? C'est pour ça que les fêtes, elles s'appellent des chagim, parce qu'elles reviennent cycliquement. C'est-à-dire ? Donc en fait, on a ici la lumière. Quelle est la différence entre cette lumière-là et la lumière du premier jour ? Le premier jour, on avait déjà eu. Né à Meorot à Gedolim, donc il a fait les deux grands luminaires. De là, Chazal vont nous dire qu'ils étaient de la même taille. Sauf que juste après, on nous dit le même chèche est à Yom, et à Maorot et à Meorot à Gedolim, et à Maor à Gadol, le même chèche est à Yom, et à Maor à Katan, le même chèche est à Laila. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'ils étaient tous les deux grands. Pourquoi tout d'un coup il y en a un grand et un petit? Alors le Midrash va nous dire, bah oui, parce que la lune s'est plainte. Elle a été voir le dieu, elle a dit, attends, c'est pas possible que tu fasses deux rois avec une seule couronne. Et Dieu lui a dit, tu as raison, puisque c'est comme ça, je vais te rapetisser. Mais t'inquiète pas, je te donne aussi des étoiles avec toi. Alors évidemment que la lune, elle n'a jamais eu de bouche, elle n'a jamais parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, de mon point de vue, ils ont la même taille. Et ça, c'est peut-être une des choses absolument incroyables de la création physique du monde. C'est-à-dire que la différence de taille qu'il y a entre le soleil et la lune est exactement proportionnelle à la distance qui nous sépare de la lune par rapport à la Terre et du soleil par rapport à la Terre. Ce qui veut dire en français que quand je regarde, moi, la pleine lune et le soleil, je les vois de la même taille. Alors que la lune est infiniment plus petite que le soleil, et le soleil infiniment plus loin que la lune. Mais comme le rapport, le ratio distance-taille est exactement le même, eh bien ça fait que je vois la lune et le soleil de la même taille. Ce qui fait que de mon point de vue, ils sont tous les deux grands. Mais il y en a un qui éclaire plus et un qui éclaire moins. C'est ça que ça veut dire qu'il y en a un qui est à Maor à Gadol et l'autre à Maor à Katan. C'est pas qu'ils n'ont pas la même taille. C'est qu'il y en a un qui donne plus de lumière et un qui donne moins de lumière. Donc il y en a un où on peut voir mieux. Quand il y a plus de lumière, on voit mieux. Et un où on voit moins bien. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer? Que ces Meorot-là sont là pour nous permettre de distinguer les choses. OK? ואת הכוכבים, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להעיר על הארץ, למשול ולמשול ביום ובלילה, להבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוהים כי טוב, c'est ce qu'on vient d'expliquer. וירא ויבוקר יום רביעי. Très bien. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ. Donc on doit avoir maintenant, Dieu dit, Yishretsu amaim, en fait que la vie commence à se mettre en place dans l'eau. Mais c'est sheretz. Mais sheretz, c'est voilà, c'est ce qui rampe, c'est ce qui est de notre point de vue, c'est ce qui est en dessous. C'est pour ça que alors là, en l'occurrence c'est les poissons, mais c'est-à-dire que tout ce qui est de notre point de vue quelque chose qui est au ras du sol, voire en dessous, on appelle ça shratzim. Ok?
Et les oiseaux.
Et les oiseaux, c'est quoi leur caractéristique? C'est qu'ils volent. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la vie en dessous et de l'autre côté la vie au-dessus. On n'a pas encore la vie sur notre plan d'existence. Pour nous expliquer qu'il y a une dimension que l'homme ne doit pas forcément atteindre et une dimension qu'il doit chercher à atteindre. C'est-à-dire ce que dira le Rav Kook dans cette phrase. Dieu a créé ces grands lézards. Alors le Malbim, il est très content. Il dit, Tanini Magdolim. La veille, c'est dans l'ascenseur ici.
Vous élevez.
Alors, c'est, bon, on s'est levé. S'est levé, exactement. Et dans l'ascenseur, je parlais avec Aaron, et il y a quelqu'un qui est monté dans l'ascenseur que je ne connais pas, qui est descendu au troisième, et qui nous a entendu parler en français. Il a dit, bon, alors, vendredi, c'est un jour important. Je dis, bon, il a dit, bah oui, c'est les 25 ans de la Ascara de Manitou. Il a dit, bah, c'est Rachoul. Donc, effectivement, on va parler de Manitou. L'explication du Malbim qui nous dit que les Tanyanim Agdolim, c'est les dinosaures, c'est bien gentil. Mais nous, depuis le début, on explique qu'on n'est pas en train de décrire le monde physique. C'est pourquoi Rashi, il va suivre le Midrash qui dit on parle du couple Monsieur et Madame Léviathan. Alors, quand je dis Léviathan, je ne parle pas de la baleine. Non, qu'en hébreu moderne, on traduit par Léviathan. Ouais. Je ne parle pas d'elle. Je parle de cet animal agadite, qui est certainement pas un animal physique tel qu'on le ressent. Et Rashi nous dit, d'après le Midrash, qu'ils étaient zoug, mais que Dieu il en a tué un, parce qu'il ne pouvait pas les laisser se reproduire. Et celle qu'il a tuée, la femelle, il l'a gardée au congèle, l'Atid Lavo. L'Atid Lavo. Hein, faut bien qu'on se fasse un sushi quand on viendra au Gan Eden, donc. Il y aura un sushi de Léviathan qui nous attend. Mais c'est quoi ici? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il y a des Taninim Gedolim? Bah, c'est Khashouv. C'est très 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 Khashouv que tu saches qu'il y a une vie grande. Grande comment? Quand on te dit que quelque chose est grand, c'est relatif. Donc si on ne te dit pas par rapport à quoi, c'est que c'est... C'est infini. Et c'est pour ça que le Midrash dit que les océans, mais ils couvrent tous les océans de la planète. Tu comprends que c'est pas physique. C'est-à-dire, mais on parle ici d'un concept qui est qu'il y a une vie extrêmement grande qui foisonne en dessous et au-dessus. Si bien que si on parle de Léviathan, la Guémara, elle nous dit hop, 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 t'as parlé du Léviathan, c'est très bien. Ben moi, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi un oiseau qui est extrêmement grand. Il s'appelle le Bar-Yurné. Bar-Yurné, c'est un oiseau que lorsqu'il ouvre ses ailes, eh bien, il fait de l'ombre à 60 villes. Et lorsqu'il lâche un œuf, ça peut détruire ces 60 villes. Qui lâcherait une bombe atomique. C'est-à-dire, encore une fois, il peut y avoir une puissance énorme sous l'eau, comme il peut y avoir une puissance énorme dans les cieux. Ok ? Off yarev ba'aretz, vayarev ayvoker yom chamishi. C'est bien ça. Vayomer Elohim, totse ha'aretz. Et là, il va falloir qu'on s'arrête de tout. Parce que c'est le sixième jour, c'est le jour qui nous intéresse, c'est le jour de l'homme. Et là, à qui Dieu parle ? Vayomer Elohim, totse ha'aretz. Il demande donc à la terre, à la nature, de faire sortir quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle doit faire sortir? Alors regardez. Totse haaretz nefesh chaya lemina. Donc la première chose qu'il faut sortir, c'est un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça s'appelle nefesh chaya. Une âme qui vit. Je ne sais pas trop de quoi on parle, on va voir. Nefesh chaya. Ensuite, deuxième chose. Totse nefesh chaya lemina. Chose que la terre doit sortir. Nefesh chaya, behema, remes, Vechaya. Behema, ce sont les animaux domestiques. Remes, c'est ce qui rampe. Et Chaya, ce sont les animaux sauvages. D'accord? Mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Nefesh Chaya. Vaya, c'est Elohim. Et Chayata Aretz. Donc ça, c'est Chayto Eretz. Ça marche, il l'a fait. Veta Behema, Lemina. Vet kol remes adama le mineo, vayar Elohim kitov. Et il n'y en a que trois. Il avait dit à la terre de sortir quatre choses, et il en a sorti que trois. Makore. Nefesh chaya, c'est qui? Eh bien, quand on regarde dans le chapitre 2, au verset 7, ok? Donc vous pouvez juste tourner la page à page 16. le dernier verset en bas de la page, il y a marqué Vaitzer Hashem Elohim et Adam afar mina adama, vaipar be'apav nishmat chayim, vaï Adam le nefesh chaya. Eh bien, regardez le verset suivant. Le verset suivant nous dit Vayomer Elohim na'ase Adam betzalmenu kidmu. Faisons. C'est du pluriel.
Oui.
Pourquoi il a besoin de dire au pluriel? Alors le Midrash va dire qu'il parle au Malachim. En disant, allez, on va faire l'homme. Et d'ailleurs, le Midrash va très loin, puisqu'il a, le Midrash dit qu'il parle à quatre Malachim. Des Malachim de haut standing. L'un s'appelle Chesed. L'autre s'appelle Tzedek. L'autre s'appelle Shalom. Et le dernier s'appelle, attends, non. Emet. Ok, c'est pas rien. Donc, Chesed, Tzedek, Shalom, Emet. C'est son conseil, son cabinet. Il y a le cabinet Corona, maintenant il y a le cabinet, est-ce qu'on va créer l'homme? Le Midrash dit que quand il a pro, il a dit, voilà, alors on y va.
C'est pas d'accord.
Mais il n'est pas d'accord, évidemment. Évidemment. Chesed a dit, Yibare. Ok, je vote pour. Parce que Ose Chassadim, l'homme. Il fait du bien, des fois. Et Met a dit Al Yibare. Parce qu'il ment. Tzedek, il a dit Yibare. Qui Ose Mishpat. Shalom, il a dit Al Yibare. Parce qu'il n'arrête pas de se disputer. De deux. Alors, comment on fait? Bah, Dieu, il voulait le créer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Midrash nous dit qu'il a pris Emmet et qu'il l'a jeté par terre. Il a jeté Emmet par terre. Et c'est ce qui explique le verset dans Tehilim qui nous dit Emmet me eretz titzmach. Il a jeté par terre, il faut que Léat, ça va remonter. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Midrash-là? Il veut nous dire qu'effectivement, quand on parle de la création de l'homme, c'est ces quatre valeurs-là à qui il faut parler. Tu veux savoir c'est quoi l'homme? C'est quelqu'un qui doit faire Emet, Tzedek, Shalom, Ve Chesed.
Mais s'il l'a jeté, Emet.
Il l'a jeté, il ne l'a pas détruit. Il a dit Emet, mais Eretz Titzmach. C'est-à-dire que ça va prendre le temps, mais on arrivera au Emet. Ça prendra le temps. Ça a l'air? Mais si on se demande à quoi ça sert l'homme, ça sert à faire ces quatre choses-là. Seulement ça, c'est le point de vue du Midrash Rabba. Du point de vue de Manitou, de l'enseignement de la Kabbalah qu'on est en train d'étudier, il nous dit c'est qui, à qui il parle? Naase Adam. Alors il y a un autre Midrash Agav qui dit, avant Manitou, qui dit que les Malachim se sont disputés, et pendant qu'ils se sont disputés et qu'ils ne regardaient pas, Dieu il a fait l'homme. Et après ils se sont retournés, ils ont vu l'homme, il a dit Kvar Naasa à Adam. Et on change les voyelles. C'est plus Naase, la Naasa. Ça a été fait. Oups! Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire à qui il avait demandé de faire l'homme, à la nature. Et elle ne l'a pas fait.
Elle est incapable.
Donc, Dieu il dit, allez, viens, on va faire. Parce qu'effectivement, dans l'homme, il y a deux dimensions. Il y a, d'après la Chassidoute, c'est plus facile à comprendre, ils nous disent, Nefesh Behemit, ve Nefesh Elohit, nous dit l'Admor Hazaken dans le Tanya. C'est-à-dire qu'on est tous faits de deux dimensions. Une dimension purement naturelle, agave, physique ou spirituel. On a aussi un cerveau et une façon de réfléchir qui est naturelle. Et d'un autre côté, on a également une neshama. Dans le langage du Ramchal, on fera la différence entre nefesh et neshama. D'accord? Et donc la partie nefesh, bah, la nature elle était capable de le faire. Mais la partie neshama, non. Donc quand on voit le verset qui nous dit « Naase Adam », ça veut dire que maintenant on a compris que l'homme, non seulement son idéal c'était de réaliser ces quatre dimensions, Emet, Tzedek, Shalom, Ve, Chesed, mais également que pour ce faire, il va devoir utiliser ces deux dimensions. Et là, je tiens à vous le dire, il y a des religions qui prônent l'annihilation du corps pour n'être que spirituel. Comme le bouddhisme, par exemple. Ou alors, la chrétienté, quand elle est poussée à l'extrême, dans les moines
qui vont s'exiler dans des monastères, des ermites.
Que tu les ermites, les petites jeunes filles.
Hein?
Les ermites.
Qui violent les petites jeunes filles.
Oh, pas toutes.
Non, pas toutes.
C'est pas sympa. De toute façon, combien ils envoient là-bas dans leur monastère? Pas beaucoup. D'un côté, il y a des idéologies qui prônent l'annihilation de la spiritualité. L'hédonisme. N'être que à la recherche du plaisir. Du plaisir du corps. Pourquoi pas? Alors le judaïsme vient te dire, mais tu as besoin des deux. On a besoin des deux dimensions, et de la nefesh behemit et de la nefesh elohit. Alors oui, la nefesh behemit, des fois, elle peut me faire tomber. Mais elle peut également m'aider à dévoiler Dieu ici, et pas seulement au Beit HaMidrash. C'est-à-dire, donc on a besoin des deux. « Na'ase Adam v'tsalmenu kidmutenu, v'irdu bidgat hayam ubeof ha-shamayim ubehemah ubechol ha-aretz asher, ubechol ha-remes ha-remes ha-aretz. » Donc cet homme, puisqu'il a cette dimension éloïte, il peut dominer tout le reste de la création, tout simplement. Et c'est pas qu'il peut, il doit. Un homme, l'humain, qui déciderait de se mettre au même niveau qu'une carotte ou qu'une vache, il transgresse son identité d'homme. Il y a aujourd'hui, comment on appelle ça, les antispécistes. Tu connais pas ça?
Non.
Est-ce que tu te rappelles de cet homme qui était chroniqueur chez Laurent Ruquier et qui nous aime pas beaucoup? Non, pas Zemmour. Émeric Caron, exactement. Tu te rappelles de lui?
Ah,
l'homme brushing.
Oui, oui.
Hein, tu te rappelles? Et lui, il est antispéciste. C'est-à-dire que pour lui, un homme, une carotte, une vache, auto d'avare. Voilà. Et il n'a pas pu s'empêcher de parler d'antisionisme dans son bouquin qui parlait des vaches. Non, c'est pas mal. Hein? Donc pour lui, la vache, l'homme, auto d'avare. Ben non. Non, je ne suis pas au même niveau que la vache. Même si c'est vrai que quand j'entends certaines personnes parler, on peut se poser la question, mais non. Non, zéro. Il y a eu un débat comme ça en Pologne. En Pologne, avant la guerre. Avant la guerre, il y a un député. Vous savez qu'au Parlement polonais, il fallait avoir une représentation selon la proportionnelle des mioutim. Ça faisait partie du traité de Versailles, que la Pologne avait le droit d'avoir son parlement, mais elle devait avoir dans son parlement des représentants de toutes les minorités. Donc les juifs, 3 millions de juifs en Pologne, sur 30 millions d'habitants, ils avaient des représentants au parlement polonais. Parmi ces représentants, il y avait Rabbi Meir Shapira de Lublin. Celui qui a été le créateur de la Yeshiva Trachmé Lublin, l'inventeur du Dafayomi, pas un petit joueur. Et un jour, il y a un député antisémite, la Méhadrine, qui fait une proposition de loi. Ça s'appelait Ludovoski ou un truc comme ça. Un truc qui ressemble à ça. Et il dit, ma proposition de loi, c'est que je voudrais interdire l'accès des parcs aux chiens et aux juifs. Elle est connue. Sauf que quelle est la réponse de Meir Shapira? Il dit, moi je vote pour. Mais on aura un problème si on vote pour, si elle passe la loi. Parce que ni toi ni moi, on pourra rentrer dans les parcs. Moi, parce que je suis juif.
Comprenne qui voudra.
C'est ça. Hein? Et dans le même ordre d'idée, il y a eu une fois un vikouach à la Knesset. À la Knesset, en Israël. Avec plusieurs députés, et dont Yosef Bourg. Vous vous rappelez? Un des fondateurs du sionisme religieux. Et il parlait de Balak et Bilam. Et à un moment donné, il est en train de parler, et il y a un des gens de l'opposition qui dit, non, mais tu crois vraiment que la nièce de Bilam, elle a parlé? Mais enfin, c'est complètement absurde, mais tu dis des bêtises! Et au bout de 5 minutes d'une tirade très vulgaire, alors il dit, Bourg, il dit, écoute, je sais pas si la nièce, elle a parlé ou pas, mais après t'avoir entendu, je me dis que c'est possible. Donc c'est vrai que des fois, t'as des êtres humains, bon, mais en vrai, non, je suis pas une vache, je suis au-delà de cela. C'est-à-dire, donc, c'est un devoir de l'homme, donc, de prendre la responsabilité du monde animal, du monde végétal, machin. Je dis pas qu'il faut uniquement l'exploiter et le détruire.
l'exploiter, c'est une chose, mais on en a aussi la responsabilité. Vaivra Elohim et Adam Betsalmo Betselem Elohim Bera Oto Zachar Unekeva Bara Otam. Ben oui, c'est ça le problème. Ça aurait dû être marqué Oto. On nous dit Vaivra Elohim et Adam Betsalmo Betselem Elohim Bara Oto Zachar Unekeva Bara Otam.
Ah oui, ça veut dire qu'il y a une.
Eh ben, non,
mais c'est une personne qui avait deux sexes, mais il dit quand même pluriel.
Ben, et donc voilà, pourquoi il dit, soit tu dis tout le temps au pluriel, soit tout le temps au singulier. Ouais. Avant de répondre pour l'homme, je voudrais poser une question. Il a déjà créé monsieur Cheval?
On n'a pas dit.
Si, non, on avait pas, si, on a parlé des béhémotes et des chayotes. Béhémote, ben, le cheval, c'est quoi? C'est une béhéma.
Oui, d'accord, c'est un animal domestique. Si c'est mâle et femelle.
Oh, ben c'est ma question. Ah, si, si, est-ce que monsieur cheval, c'était un mâle ou une femelle?
Ah, ben, il a quand même dit croiser et multiplier.
Donc il y avait et monsieur et madame cheval, et jument.
Oui.
Donc quel est le chidouche que chez Adam, il était Zachar et Nekeva? Chez tout le monde, il y avait Zachar et Nekeva.
Mais là, ils sont collés, hein.
Oh, ça veut dire que chez monsieur cheval et madame jument,
ils ne sont pas collés.
Il y a un Zahar, il y a une Nekeva. Et pourquoi il y a un Zahar et une Nekeva? Pour faire des bébés.
Oui.
Nahon. Chez l'homme, il y a un Zahar et une Nekeva pour faire autre chose avant de procréer. Il y a d'abord une notion d'unité avant d'avoir une notion de croître et de multiplier. C'est-à-dire, donc, Zahar ou Nekeva, Baraotam, les deux. Avalent les deux, ils ont les deux. C'est-à-dire, je rappelle qu'à ce moment-là, on est toujours dans un monde métaphysique. Donc, qu'est-ce qu'il crée là maintenant? On a parlé de la Neshama. C'est-à-dire, ne me demandez pas à quoi elle ressemble, c'est une Neshama. Ça n'a pas de forme, une Neshama. Alors venez.
Pourquoi il n'a pas dit à son image?
Si.
Alors son image, c'est que une Neshama.
Et Dieu, il a un corps?
Je sais pas.
Bah, si tu sais, en lo gouf, velo de monta gouf. Donc c'est baroque que s'il est fait à l'image de Dieu, c'est pas. Dieu il est long, il est roux, ouais. Il est quoi? C'est vrai? Donc là on parle pas encore du corps de Adam, du tout.
À sa ressemblance.
À la ressemblance de Dieu.
Ouais.
Mais Dieu, il a pas un nez de juif. Dieu, l'image.
On a tendance à confondre. Oui,
mais bien sûr. Ça, c'est à cause de la traduction, de ce que les chrétiens en ont fait. Ah, les chrétiens, ils en ont fait clairement. Ils ont dit, bah non, mais tu sais quoi? C'est un homme. Dieu, c'est un homme.
Oui.
Voilà, comme ça, on a réglé le problème. Bah, mais nous, on n'est pas chrétiens. Donc, Vaivarech otam Elohim, Vayomer laem Elohim, Pérou, Ourvou. C'est-à-dire que d'abord, ils étaient Zachar ou Nekeva, et ensuite seulement, Pérou, Ourvou. ומילו את הארץ וכיבשו הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיית הרומסת על הארץ ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל עץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. Donc ils ont droit de manger quoi?
Tout
le végétal. אבל ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס הרומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה ויהי חם. Les animaux eux aussi mangent le végétal. On n'a pas le droit encore de manger l'animal. OK? Parce qu'on n'a pas encore pris l'ascendant sur les animaux. J'ai dit il y a deux secondes qu'on devait le faire. Nahon, mais là on l'a pas encore fait. Donc tant qu'on ne l'a pas encore fait, ça sera fait à l'époque de Noah. Et donc Noah, on va lui permettre de manger la viande. C'est-à-dire, c'est une élévation par rapport à l'époque de Adam Arishon. Ça dépendra à qui on demande. Entre le Rambam et le Ramban, est-ce qu'il s'agit d'une élévation ou d'une chute? Mais ça, quand on y arrivera, on y arrivera. C'est-à-dire, ok, alors à Koltov, Vayar Elohim et Kol Asher Asa, Veine, Tov, Meod.
C'est la première fois qu'il dit
merde. D'accord. Ça y est, j'ai fini. À Kol Beseder, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi. Qu'est-ce qui était Tov Meod?
Toute la création.
Toute la création. Alors, je vous demande juste d'écouter ce verset incroyable qui nous dit, attention, attention, deux secondes, je viens tout de suite. Où est-il? Voilà. Dans le chapitre 2, verset 18, « Yomer Hashem Elohim lotov et yota Adam levado. » Oui, mais attendez deux secondes, il vient de dire « Tov meod ». Alors, Makara, donc je repose ma question. Qu'est-ce qui est Tov Meod? C'est tout ce que Asher a ça. Le verset nous dit Vayar Elohim et Kol Asher a ça, Vein et Tov Meod. Quand on regarde la création, il y a des choses où le verbe utilisé pour faire c'est la sot, il y en a d'autres c'est livro, ou alors d'autres choses. Il n'y a que pour les choses où il y a marqué la sot que Dieu a dit c'est Tov Meod. Mais l'homme, il y a marqué quoi? C'est vrai qu'il y avait marqué Naase Adam Betsalmenu. Naase, la Asot, c'est bon. Sauf que dans les faits, Vayivra seulement Elohim et Adam. Le projet, c'était de la Asot, Toto. Mais finalement, il a juste. Il faut choisir soit en hébreu ou en français, mais c'est dur de faire les deux. Mais l'idée, c'était la Asot, le parfaire. Et finalement, il ne l'a que créé. Vayivra Elohim et Adam, c'est-à-dire imparfait. Donc quand il dit c'est Tov Meod, oui, ce qui est parfait. Ce qui ne l'est pas demande à être complété. L'homme est donc en perpétuel perfectionnement. Il n'est pas parfait. Il a des choses à terminer. Parmi les choses qu'il a à terminer, ben, c'est là. Vayechulu Hashamayim Ve'aretz Vechol Sevam. Vayechal Elohim Bayom Hashevi Mikol Melarto Asher Asa. Terminé. J'ai fini. Vaishbot, quoi, qu'est-ce que j'ai fini? Mikol Melarto, Asher Bara Elohim, Laasot. Nous sommes dans, ici, le septième jour, puisqu'on a terminé avec Vaire Vaivoker Yom Hashishi. Avant qu'on rentre dans ce kidouche qu'on connaît très bien, maintenant qu'on a fait les six jours de la création, j'aimerais vous poser la question. J'ai terminé le cours précédent en disant, vous verrez que les trois derniers jours a été créé exactement la même chose que les trois premiers jours. À une différence près. Je répète, le premier jour, lumière, deuxième jour, ciel et mer, troisième jour, terre, arbre. Quatrième jour, soleil, lune, étoile. Cinquième jour, les oiseaux, les poissons. Sixième jour, les animaux et l'homme. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le 4, 5, 6 a été créé exactement la même chose que le 1, 2, 3. Je vais la refaire. C'est exactement la même chose, à une différence près, que Dieu a insufflé le mouvement. Le premier jour, c'est la lumière. Le quatrième jour, c'est la lumière en mouvement. Soleil, étoile, kochavim. Le deuxième jour, le ciel et la mer. Le cinquième jour, la vie dans le ciel et la vie dans la mer. Le ciel en mouvement, la mer en mouvement. Le troisième jour, la terre, les fleurs, les arbres. Le sixième jour, la terre en mouvement, les animaux et l'homme. En d'autres termes, ce qui diffère entre les trois premiers et les trois derniers, c'est qu'il y en a qui prônent un monde statique, et l'autre qui prône un monde en mouvement. Les amis, oui.
La terre, les fleurs poussent.
Oui, tu as raison. Les fleurs, les arbres poussent, tout à fait.
La mer bouge.
Mais tu as raison. Mais rappelle-toi ce qu'on a dit déjà avec l'histoire du soleil, machin. Tout est de notre point de vue. C'est vrai qu'un arbre s'agrandit. Mais aucun homme ne reste devant un arbre pour le voir grandir. On ne se rend pas compte quand il grandit. Il grandit, c'est vrai. Quand tu reviens 10 ans plus tard, tu vois qu'il a grandi. La fleur, tu reviens 4 jours plus tard, elle a grandi, elle a éclos. Mais de mon point de vue, au moment où je regarde les choses, je le vois statique. Alors que les animaux, ils bougent tout le temps. D'ailleurs, c'est quoi la différence halakhique entre les animaux et les fleurs? Et pas seulement halakhique, mais d'ailleurs au niveau anthropologique, mais au niveau de la recherche des animaux. C'est que les animaux, ce sont des végétaux qui se déplacent pour trouver leur nourriture. C'est-à-dire que le végétal aussi, il a besoin de se nourrir. Seulement, il se nourrit par ses racines. L'animal, lui, se nourrit en allant chercher sa nourriture. C'est le mouvement.
Les animaux sont des végétaux.
Hein ? Les animaux sont des végétaux, pas au niveau botanique. Pas au niveau botanique. Mais au niveau de, si on veut comprendre comment ça marche les choses, c'est la même chose qu'un végétal, seulement il a besoin de se déplacer pour chercher sa nourriture. Nous aussi. Non, voilà, à ce niveau-là, on est des animaux.
C'est une création qui a besoin de se déplacer
pour se nourrir. Alors que les fleurs, sur place.
Ils cherchent leurs racines.
Dans leurs racines, et ils prennent sur place. C'est ça ? Donc, il y a un idéal du mouvement face à un idéal du fait d'être statique. Les amis, le monde que nous connaissons, dans toute l'histoire, s'est séparé en deux hémisphères. Pas nord et sud, mais est et ouest. Il y a vraiment une séparation entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest. Et on peut voir ça vraiment dans la carte du monde. Il y a pratiquement une faille, enfin une frontière naturelle entre le monde de l'Est et de l'Ouest qui va passer du Nord par les monts Ourals, par la Sibérie, enfin tout au Nord de Sibérie, ensuite on descend, il y a une chaîne de montagnes en Russie, et ensuite il y a tous les stans. Vous connaissez les stans ? Kazakhstan, les stans, hein, tous les stans. C'est-à-dire, c'est une chaîne de montagnes et ça descend et ça va descendre par le désert de Gobi. Et si tu veux, il y a du nord au sud des trucs naturels terribles qui sont infranchissables. Et on se rend compte que les caravanes, alors aujourd'hui évidemment les avions obsédèrent, mais à l'époque, on voit que les peuples d'Occident, d'Europe, sont en contact jusqu'à l'Inde. Mais pas après. Il n'y a pas de commerce avec l'autre côté. Et par contre, les civilisations de l'autre côté sont en contact tous les uns avec les autres, mais pas vers l'Occident. Il y a vraiment une séparation entre les deux. Et quand on regarde quelle est la vraie différence entre les deux, bah c'est très simple. L'Occident a mis le mouvement, le progrès, l'évolution comme étant un idéal de société. En Europe, en Occident, et aux États-Unis aujourd'hui aussi, bien sûr. Quand tu restes à ne rien faire, c'est pas bien. Dans l'Orient, l'idéal, c'est de ne pas toucher à ce qui est.
Oui, respecter la nature. En
fait. Ne pas bouger.
Une valeur.
D'abord, parce que qui te dit que ce que tu vas inventer de nouveau, ça sera mieux ?
L'histoire du petit Olivier.
Nara ? Agave, entre parenthèses, il y a... quand on regarde cette différence de mentalité incroyable... Tout ce que l'Europe a inventé au 19e siècle, qui a amené à la révolution industrielle, au niveau technologique, hein, était connu en Chine au 11e siècle. Mais ils n'en ont pas fait de révolution industrielle, parce que ce n'est pas du tout leur mentalité de faire évoluer les choses.
Ils ont bien changé.
Et les Japonais.
Pareil ! Mais les Japonais et les Chinois de eBay, ou les Chinois de, pas de eBay, mais de AliExpress, c'est des Américains. C'est des Chinois, mais qui ont complètement été occidentalisés au niveau de l'argent, au niveau de leur façon de vivre. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une, comment on dit, une succursale de New York. C'est-à-dire, mais par contre, va voir le Japon du Japon, c'est autre chose. Et il y a aujourd'hui au Japon un vrai combat entre ceux qui sont des traditionnalistes.
Alors, l'Afrique est à l'est ou à l'ouest ?
Alors là, c'est une très bonne question. Mais je vais te dire.
À quoi c'est dû ?
De quoi ?
Cette séparation.
Attends, je réponds à l'Afrique. Pourquoi tu me poses la question que de l'Afrique ? Pourquoi tu ne me poses pas la question des États-Unis, du continent américain, ou alors de l'Océanie ? Parce que les amis, toutes ces zones-là ne sont pas les zones Aleph dont la Torah parle. Et deuxièmement, jusqu'à il y a très 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 récemment, elles n'étaient pas du tout impliquées dans l'histoire du monde. Elles avaient leurs histoires, évidemment. Elles avaient leur histoire. Mais... le continent africain, avant qu'il ait été colonisé, est-ce qu'il prenait part aux histoires du monde ? Non.
Mais il est à l'ouest pourtant.
C'est ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas une question géographique. Ils étaient pas tout absents de l'histoire du monde. Les États-Unis, le continent américain, tant qu'il n'y a pas eu les conquistadors, ils avaient leur vie, mais ils n'avaient aucun lien avec le reste du monde. Donc si tu veux, ils sont ni là ni là. Maintenant, ils sont ce que les conquérants leur ont fait. Donc, le continent américain, c'est l'Occident, c'est les États-Unis. Point. Ça aurait pu être l'autre côté. Mais...
en Afrique, c'est pareil. En Afrique, ils ont été conquis par l'islam.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est évident. Donc, aujourd'hui, une grande partie de l'Afrique, elle est musulmane. Bien évidemment. OK ?
Et pourtant, Mitzrayim, c'est en Afrique.
Mitzrayim, c'est l'Occident. L'islam, c'est pas l'Orient. Hein. Attention, l'Orient, c'est pas le monde musulman. C'est ce que nous, on appelle l'extrême-Orient aujourd'hui. Mais en fait, l'Orient, c'est à partir de l'Est de l'Inde.
Qu'est-ce
que tu fais avec l'Australie, l'Océanie? Ben c'est pareil. L'Australie, tant que les Anglais ils n'y ont pas été, il y avait sûrement des choses. Il y avait des aborigènes, il y avait plein de gens. Mais ils n'ont pas pris part à l'histoire humaine. C'est-à-dire
à l'histoire moderne.
Humaine de l'époque.
Humaine de l'époque.
C'est-à-dire qu'ils avaient leurs histoires, bien sûr, mais il n'y avait aucun contact avec la partie qui a laissé des traces. Quand tu vois aujourd'hui la culture océanique, c'est très, 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 très difficile de remonter à plus loin qu'il y a quelques centaines d'années. Alors que la culture de l'Occident, eh ben, elle a laissé des traces depuis près de 5000 ans. C'est-à-dire Bekitsour, donc on a vraiment dans notre monde cette dualité entre l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest, on bouge ou on ne bouge pas. Où est Amisraël dans tout ça? C'est quoi l'idéal du peuple juif? Les trois premiers jours de la création? La statique ou les trois derniers, le mouvement?
Les trois derniers.
C'est
pas pour rien qu'on nous a appelé le peuple errant, hein, quand même.
Oui, mais ça, c'est parce que nous, on voulait.
Vrai, oui.
On aurait préféré ne pas.
On aurait pu rester dans un coin et se faire oublier, quoi.
Quel coin? Quel coin? Tu connais un coin, toi?
Celui-là. C'est là notre petit
coin. Quoi, au bureau Bidjan?
Oui.
C'est compliqué. Non, les amis, on va faire très simple. Notre idéal à nous, c'est Shabbat. Mais attention, attention. Mais pas Shabbat dans le sens on fait rien. C'est quand Shabbat? Est-ce que Shabbat c'est le week-end ou est-ce que Shabbat c'est le milieu de la semaine ou est-ce que c'est le début de la semaine? On a trois options. Soit c'est le début de la semaine, soit c'est la fin de la semaine, soit c'est le milieu de la semaine.
Dans la
mémoire,
il est
la fin de la semaine.
Pour la cuisine, c'est le mardi.
J'ai dit pour la cuisine, c'est le mardi.
Dans la mémoire, le Shabbat est la minute.
Le quoi, va?
Dans la mémoire, le Shabbat est donc.
Ou c'est le début? Personne ne dit c'est le début.
D'abord, on travaille et après, on se repose, mais on prie.
On commence,
on ne travaille pas, mais on fait aussi.
Alors, regardez. Alpia halacha, d'après la halacha, le Shabbat, c'est la fin de la semaine. On est Rishon Be-Shabbat. Je suis le premier jour de la semaine qui va amener à Shabbat. Ça, c'est au niveau de la halakha. Au niveau de la Kabbalah et de la cuisine, le Shabbat est le milieu de la semaine. C'est-à-dire que Alpia Kabbalah, on commence à se souhaiter Shabbat Shalom mercredi et on pourra faire la Havdalah jusqu'à mardi. Et pourquoi il m'appelle 12 fois? Je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Donc, c'est une réalité concrète. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le judaïsme, il n'y a pas de préférence pour la statique, ni de préférence pour le mouvement. C'est parce que j'ai eu du mouvement que je pourrai profiter du Shabbat. Donc on a besoin de ces deux dimensions encore une fois. Une fois qu'on a compris ça, alors on peut dire Vayechulu Hashem Ayim Vaaretz Vechol Tzevaam Vayechal Elohim Bayom Hashevi'im Mikol Melachto Asher Asa. Shechet Yamim Ta'avod, bien sûr. Donc וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. On a dit dans chaque jour de la création, il y avait un projet. La lumière, les arbres, machin. Quel est le projet du septième jour? La Kedusha. Le projet du septième jour, c'est la Kedusha. C'est d'arriver à la Kedusha. ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. La sotte. Donc Dieu, il est chauvette. Mais de quoi? Des melachot. Ce qui fait que nous, Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Des avodot. Oui, je sais qu'en hébreu moderne, tout semble pareil. Mais ce n'est pas la même chose. La avod ve la sotte melacha.
C'est quoi melacha?
Ben, je vais te dire. Imaginons que Sylvain, un jour, il arrive de la choule, et il rentre ici, et on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais il a décidé que le meuble ici, eh ben, il serait mieux ici, et que ce meuble-là, il serait mieux là-bas, et que le canapé, il serait mieux dans la cuisine. On va y réfléchir. Il a le droit de bouger toute la, tout le salon. Et je ne te parle pas du lumbago, je ne te parle pas de trucs, mais moutarde. Et à la fin de Shabbat, il sera vaï nafash. Mais il a transgressé rien du tout. Alors que s'il fait tit sur l'interrupteur, c'est assour. C'est quand même plus difficile de porter tous les trucs que d'appuyer sur l'interrupteur. Comme disait, et comme le dit toujours mon père Shlita, bon, je comprends que dans le désert, faire un feu, c'était un travail. Mais appuyer sur un bouton, hein, franchement. Et la main. Bouger des meubles, c'est pas le propre de l'homme. Un animal bien dressé est tout à fait capable de bouger un rondin de bois. Un éléphant le fait très bien. Mieux que nous, d'ailleurs. Ça, c'est une avoda. Melacha, c'est quelque chose qui vient du propre de l'homme, c'est une création de l'homme. Alors oui, un singe aussi, il est capable d'appuyer sur un bouton. Oui, mais ce n'est pas le fait d'appuyer sur le bouton. C'est, tu sais combien d'esprits incroyables il a fallu pour arriver à Thomas Edison et l'ampoule ? C'est la réalisation de l'homme, la Melacha. Donc, de la même façon que Dieu, il a créé ce monde et il a réalisé des choses extraordinaires, eh bien nous, on va devoir la sot melachot, kol ha-shavua, pour créer le monde. Mais beyom ha-shabbat, on ne fait plus de melacha. Donc la melacha, ce n'est pas un travail, c'est une création. Bon, alors après, il y a des règles. Mais la différence entre travail et création, elle est très importante. C'est-à-dire, donc, à ce niveau-là, on n'a pas le droit de faire de melacha. Donc Dieu, le septième jour, Shabbat, c'est Shabbat pour qui ? Pour lui. De son point de vue, c'est Shabbat. Ça ? Alors comment le monde il se gère ? Ben, il se gère bien. Parce que Dieu, il a fait un truc très bien juste avant Shabbat. Il a créé le Shaon Shabbat. Je vais mettre la minuterie de Shabbat. Comment ça se fait que ta lumière, elle s'allume au bon moment, elle s'éteint au bon moment, et la plata, et machin, et truc ? Shaon Shabbat ? L'ascenseur, machin. Non. Attends. Shaon Shabbat. Comment est-ce que lui, il a appelé son Shaon Shabbat Dieu ? Il l'a appelé la nature. La nature, c'est le Shaon Shabbat de Dieu. Ça marche sur minuterie. Tous les jours, le soleil se couche, puis il se lève. Et puis il y a les saisons comme ci, les saisons comme ça. Et ça marche. Et il n'y a pas d'intervention divine. Des fois, tu as branché trop de trucs sur la même prise et les plombs ils sautent comme à Simchat Torah à Shorashi. Oui, en plein milieu des danses. Et il faisait tout noir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et bien à ce moment-là, on appelle Superman. Le Shabbos Goy. Tu connais le Shabbos Goy ?
C'est un truc.
Ah, ça, c'est un bon truc, ça. Hein, t'as vu ? Et bien Dieu aussi, il a besoin de Shabbos Goy. C'est qui ?
Goy.
Non. C'est nous.
C'est nous.
Pas ni les juifs ni les goïms. L'humanité. L'homme, c'est le Shabbos Goy de Dieu. C'est lui qui va maintenant parfaire la création. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Lui, Shabbat. Asher Bara Elohim, la Asot. Qui doit maintenant faire, puisque lui, il ne peut plus faire ? Nous. C'est à nous de parfaire la création du monde. C'est le rôle qu'il nous a attribué.
T'as pas parlé de la séparation
de
l'homme et de la femme ?
Ben parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Je
peux pas. C'est pas encore au sixième jour ?
Non.
Non. Je croyais que c'était au sixième jour.
Non, j'ai lu verset après verset, hein. J'ai rien sauté. Mais ça a l'air donc. On va y arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ben, il y a eu Shabbat et ça m'a finalisé de me donner mon rôle.
Je peux te dire des choses
bêtes. Seulement, mala asot qu'il n'y a pas marqué vayerev vayvoker yom hashavi. Pas marqué. Ce qui veut dire que le yom hashavi, il n'est pas fini. Ça fait maintenant 5782 ans qu'on est dans le yom hashavi. Et qu'on est là pour terminer la création. Voilà l'objectif de l'homme. Une fois qu'on aura réussi à faire de ce monde un monde kadosh, parce que tu as dit, tu as raison, le projet du septième jour, c'est la Kedusha. Alors, on pourra écrire dans le Sefer Torah à la fin, on appellera un sofer, on appellera Yoni, et on ouvrira le Sefer Torah, et on lui dira, allez, c'est bon, tu peux y aller. Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayi Voker, Yom HaShevi. Point. Et à ce moment-là, on pourra rentrer dans le huitième jour, qui est une autre réalité, qui est Yom Shekulo Shabbat. Et ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle Olam Haba. Donc, on en est là. Voilà. Les sept jours de la création sont mis en place. Donc, j'ai plus rien à savoir. Ça y est, je sais. C'est bon, j'ai compris. On peut commencer maintenant l'histoire. Sauf que Malahasot, le quatrième verset du deuxième chapitre, me dit un mot terrible. Elle est Toledot Hashamayim Ve'aretz Ve'ibar'am. Et nos sages vont nous dire, à chaque fois qu'il y a marqué « elle est quelque chose », ça annule ce qu'il y avait avant. Lorsqu'il y a marqué « ve'elle », ça rajoute ce qu'il y avait sur ce qu'il y avait avant. Et là, il y a marqué « elle est Toledot Hashamayim Ve'aretz Ve'ibar'am », comme si on voulait annuler tout le premier chapitre de Bereshit pour relire la chose avec un nouveau point de vue. Quel est ce point de vue ? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À Zagou.